Donc bienvenue à tous à cette nouvelle table ronde dont le titre est « La physique rend-elle l'univers intelligible ou en épaissit-elle les mystères ?» Donc on a sur ce plateau 5 personnes pour nous apporter une réponse, j'espère, claire à la question. Estelle Blanquet, ici présente, qui est agrégée de physique, spécialiste de l'enseignement des sciences. Tu as participé à plusieurs ouvrages sur la question et sur d'autres questions d'ailleurs, essentiellement aux éditions Somnium. Catherine Dufour à ma gauche, qui est ingénieure en informatique, mais surtout romancière de science-fiction, mais pas que. Tu es récipiendaire de nombreux prix, et dans la veine, disons, de la SF sérieuse qui se rapproche un peu plus de notre sujet, on peut citer Le goût de l'immortalité, L'accroissement mathématique du plaisir ou Outrage et rébellion chez De Noël. Daniel Gossens, qui est auteur de bande dessinée, tu as plus de 25 albums publiés, dont un de tes premiers albums touche un tout petit peu à la physique, s'appelait La vie d'Einstein. Tu es connu pour ton humour, je pense, absurde et un peu cérébral, et ta collaboration très fructueuse à Fluide Glacial. Tu as eu le Grand Prix d'Angoulême pour ton œuvre, et tu es aussi chercheur en intelligence artificielle. Eric Pichol, ici présent, est physicien au CNRS. Tu travailles sur l'optique non linéaire et sur les atomes froids. Tu t'es aussi intéressé auparavant à l'épistémologie et récemment à la science scolaire avec Estelle. Vous avez des publications en commun. Et enfin, Thierry Stolarstic, ici présent, qui est physicien des astroparticules ou astrophysicien des particules. Peut-être tu nous expliqueras éventuellement la différence si c'est un rapport avec le sujet. Au commissariat à l'énergie atomique, tu as longtemps cherché des neutrinos. Et aujourd'hui, tu participes à l'élaboration d'un observatoire pour déterminer l'origine des rayons cosmiques. Alors, j'ai envie de démarrer ce débat en posant la question aux deux physiciens qui sont ici. Est-ce que vous avez le sentiment que vos propres recherches ou quelque part dans vos champs thématiques ont aidé votre prochain à comprendre le monde ou ont plutôt rendu le monde beaucoup moins compréhensible?
Je crois que la question posée comme ça, on ne peut qu'avoir une réponse d'une très grande humilité. Et évidemment, non. Je pense qu'il y a une dizaine de milliers de physiciens en France, peut-être aujourd'hui. Sur le lot, il y en a une poignée, peut-être, dont les travaux ont changé, ont eu une chance de changer le monde. Et encore. Plus généralement, pour poursuivre sur ce terme, je crois que l'humilité est à la base même de la recherche. C'est comme dans beaucoup de domaines, un tout petit peu de connaissances permet d'avoir l'impression de comprendre beaucoup de choses. Dès qu'on approfondit un petit peu un sujet, que ce soit la mécanique automobile ou la physique fondamentale, on s'aperçoit qu'on sait surtout qu'on ne sait rien. Et que plus on approfondit les questions, plus on creuse, plus on sait de choses certainement, mais plus on se rend compte de l'immensité des questions qui restent sans réponse, des choses qu'on ne sait pas. Donc pour moi, la question de l'épaississement du mystère est à double tranchant. D'un côté, le monde est infiniment complexe, le monde est infiniment mystérieux. C'est probablement ce qui attire les gens vers la science fondamentale. C'est quand un jeune homme ou une jeune femme prend conscience de ce mystère absolu que constitue le monde, que constitue la vie pour les biologistes, que constitue d'une façon générale tout l'univers qui nous entoure, qu'on peut avoir envie de consacrer sa vie à chercher à approfondir les choses. Sauf que très rapidement, on s'aperçoit qu'approfondir les choses, c'est se spécialiser à outrance. Donc il y a progresser dans ses études, faire des études dans une discipline quelconque, c'est au moins autant renoncer à toutes les autres disciplines, à toutes les autres sous-spécialités et toutes les autres micro-spécialités, plus on se spécialise, qu'apprendre des choses dans la sienne. Et dans la sienne propre, on découvre aussi l'étendue de son ignorance. Donc pour moi, le mystère du monde préexiste. Le monde est mystérieux, le monde est merveilleux, le monde est plein de mystères et de défis. On s'en rend compte ou non. Et je pense que plus on est cultivé dans son domaine, quel que soit ce domaine, scientifique ou non, plus on perçoit le mystère du monde. Donc effectivement, on approfondit en quelque sorte, non pas la physique elle-même approfondit les choses, mais un peu de savoir en physique, un peu de connaissance en physique, approfondit la conscience du mystère du monde. Elle lève quelques voiles, mais je ne crois pas qu'elle en jette d'autres, mais elle en fait apparaître beaucoup d'autres.
Thierry ?
Alors d'abord, je peux rebondir sur ce que tu disais. Oui, physicien des astroparticules ou astrophysicien des particules, ce qui signifie essentiellement utiliser l'infiniment petit pour voir l'infiniment grand. Donc c'est certainement ce qu'on pourra considérer de plus épaississant ou de plus, voilà, enfin, de plus mal de crâne en science. Mais en réalité, ça jette de nouveaux éclairages sur le monde. Et ça me permet de rebondir d'ailleurs aussi sur ce qu'on appelle le monde. C'est-à-dire que je me demande si la question est bien posée dans ce sens que je pense que ce soit dans l'infiniment petit, mais surtout dans l'infiniment grand, et on le constate tous les jours avec les découvertes qu'on ne cesse de faire au quotidien, le monde se définit par ce qu'on en connaît. Donc finalement, l'objectif de la science, c'est plutôt de rendre cohérent la vision ou les visions que l'on a de ce que l'on a déjà découvert. Et ça ne dit bien sûr absolument rien sur ce qu'on n'a pas encore vu. Ce qui laisse d'ailleurs énormément d'espace pour les auteurs de science-fiction. Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre aussi simplement à cette question. Ça dépend d'abord de ce qu'on définit par le monde. C'est-à-dire, je crois que le but de la science, c'est d'abord d'établir une série de règles ou de lois qui permettent de rendre compte d'un certain nombre d'observations et qui peuvent être remises en cause à tout instant avec une nouvelle observation ou une nouvelle découverte.
Alors peut-être pour donner la parole aux autres intervenants, Catherine et Daniel, quelle est votre vision de qu'est-ce que la littérature ou la bande dessinée peuvent apporter à notre public pour comprendre mieux des concepts peut-être très obscurs introduits par les physiciens? Est-ce que une autre forme d'art peut nous aider à comprendre des choses qui sont assez complexes? Que tu parlais de micro-spécialité, par exemple.
Qu'est-ce que la bande dessinée pourrait apporter pour vulgariser des choses aussi complexes que les modèles mathématiques dont peut-être vous pourrez parler tout à l'heure pour représenter l'univers ou tout simplement la physique en général? À mon avis, pas directement. C'est-à-dire, j'ai vu, vous avez sûrement tous vu aussi beaucoup de tentatives de vulgarisation en bande dessinée. On ne dépasse pas quoi de l'histoire, de la science, hein, des portraits de scientifiques. On ne peut pas rendre grand-chose compréhensible. Donc du coup, je ne crois pas qu'on puisse... Voilà, la bande dessinée ne peut pas remplacer les schémas. Moi, quand j'étais jeune, je voulais comprendre la théorie de la relativité d'Einstein. Ça m'attirait, puisque c'était célèbre. Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière. Et donc, il faudrait, pour avancer dans cette direction, avoir des simulations. On en a maintenant un petit peu. Vous avez sûrement vu des simulations dans des documentaires pour essayer de faire comprendre, parce que l'espace courbé par la matière, etc., ça remplace la force magique de Newton, enfin, etc. Il faut des schémas. La bande dessinée n'est pas faite pour ça. Il faut des schémas, il faut un petit peu de formalisme, moi, je dirais. Ça ne remplacera pas ça. Alors, qu'est-ce que la bande dessinée pourrait apporter? Peut-être, depuis la nuit des temps, il y a deux sortes de connaissances sur l'univers. Il y a les connaissances scientifiques, rationnelles, et puis les connaissances religieuses, mystiques, etc. Et alors, la vision usuelle, c'est le rationnel, la science, nous fait sortir progressivement de l'obscurité des modèles, par exemple, je ne sais pas, qu'avaient les Égyptiens antiques, hein, sur l'idée que le soleil était un dieu, ou je ne sais pas, les gens qui ont adoré la lune, en croyant qu'elle nous observait. Et ce n'est pas le cas, parce que force est de constater que même à notre époque, ces deux formes de connaissances existent toujours, et je dirais presque aussi avec autant de vigueur que dans le passé. Il y a toujours des mystiques, il y a toujours des envies de croyance, etc. Et donc la bande dessinée, avec la dérision, là, je vais essayer de faire abstrait et court, la bande dessinée et la dérision. Pour moi, en tout cas, c'est la métaphore qui a éclairé le mieux ma compréhension, participe à la pensée collective. La dérision jouant le rôle d'une sorte d'inhibition hein, qui vient dire aux envolées lyriques un petit peu trop sur la comète, modère-toi, relativise-toi. Et puis, l'autre côté, c'est-à-dire le lyrisme, lui, on ne pourra pas le faire disparaître en proposant des modèles mathématisés de l'univers. Hein. Vous le saviez, vous lisez de la SF, on est attiré par ça, on a besoin de ça. Et donc, cette pensée collective, ça, c'est de l'extrême utopie. Pourrait peut-être, un jour, je ne sais pas quand, prendre en charge ce problème qu'on se pose là. C'est-à-dire, il semble acquis que nos cerveaux isolés ne peuvent plus comprendre, en tout cas intégrer dans notre intuition les modèles mathématiques, logiques, pour décrire le monde, la réalité. Donc peut-être que cette pensée collective, dans 1000 ans, y arrivera. Et donc on en sera les neurones.
Si tu veux,
oui, je suis tenté de mettre un bémol à ce que tu dis.
C'est du lyrisme.
Oui, mais les échelles de temps me semblent beaucoup plus courtes que ce que tu évoques. Si on prend par exemple l'une des théories qui font le plus peur aujourd'hui, la théorie quantique, c'est une théorie qui a un petit siècle. On parle des années 1920. Effectivement, pendant plus d'un demi-siècle, elle a hypnotisé tout le monde. Et au point que les tenants de l'école de Copenhague sont quasiment constitués en secte. Niels Bohr expliquait à ses disciples qu'il ne fallait surtout jamais s'exprimer plus clairement qu'on ne pensait. Et donc, on ne pouvait parler qu'en langage formel, on ne pouvait pas parler de mécanique quantique du tout si on n'avait pas 5 ans de maths ou de physique dans le dos. Et ça a été vrai pendant jusque typiquement aux années 80. Mais il me semble que depuis les années 80-90, beaucoup de gens se sont appropriés ce genre de choses. Des ingénieurs se sont appropriés cette physique. La physique, on commence à avoir des applications de la physique quantique. Et le vocabulaire a considérablement évolué. Et on peut commencer à parler de physique quantique en langage naturel, en parler sans se faire insulter dans des romans, pourquoi pas dans des bandes dessinées. Et la constante de temps pour l'évolution, alors c'est un chemin qui n'est pas fini et la mécanique quantique n'est clairement pas un élément de la culture générale de tout un chacun, mais la constante de temps me paraît plus proche de 50 ans que de 5000 ans, et je parierais assez volontiers que dans 50 ans, la mécanique quantique sera une vieille lune qui est une banalité pour tout le monde, comme le copernicanisme aujourd'hui.
Catherine, est-ce que tu veux...
Oui, bonsoir à tous. Alors déjà, je voulais dire mon étonnement d'être invitée à cette table ronde. Parce que je connais pas bien Estelle et Thierry, mais je crois que ce sont de sacrées pointures en physique. Je connais bien Éric Pichol, qui a un QI stratosphérique. Quand il s'adresse à des gens normaux comme moi, il est obligé de ralentir sa pensée pour qu'on capte. Monsieur Goussin, c'est juste un génie, ça je le dis sans bouillir. Et Raphaël Granier de Cassagnac, je sais pas, tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était il y a une quinzaine d'années, c'était sur un bateau avec Nesty. Tu te souviens pas de la première chose que tu m'as dit?
Non.
Tu m'as dit le boson de Higgs est un boson qui est un spin entier. Tu t'en souviens pas?
J'ai fait ça, moi. Oui. C'est bizarre parce que c'est la définition de boson, donc.
Bon. Enfin, moi, mes connaissances en physique quantique sont légèrement inférieures à mes compétences en linguistique non saussurienne. Donc, pour toute réponse concrète à la question sur la physique quantique, je préfère vous renvoyer à la conférence d'Alexandre Astier que vous trouverez sur le net, et qui s'intitule « La physique quantique, un bilan mitigé ». Par contre, pour ce qui concerne le fait, les liens entre écrire de la science-fiction et faire de la physique quantique, il faut le dire, c'est très facile d'être écrivain de science-fiction parce qu'il suffit de se pencher sur recherche, nature. Bon, je vous avoue, j'ai surtout Science et Vie Junior. Et vous trouvez toujours une nouveauté et vous allez la promener dans le champ du réel comme une lanterne magique en vous disant, bon sang, si ça demain s'est mis sur le marché, qu'est-ce que ça va donner? Je me souviens d'avoir lu une petite notule sur la vasopressine. On faisait des tests sur les rats et quand on donne la vasopressine à un rat, ça va stimuler son sentiment paternel. Et quand vous lui retirez la vasopressine, son sentiment paternel va s'effondrer. Et donc là, j'ai imaginé une femme qui a un amant, qui est mariée, et il ne veut pas quitter sa femme pour elle. Alors du coup, elle lui met dans ses cacahuètes un inhibiteur de la vasopressine, donc il perd tout intérêt pour ses enfants. Donc il quitte sa femme et ses enfants, et après, comme elle est sadique, elle met dans ses fraises tagada de la vasopressine, donc... Il retombe fou amoureux de ses enfants, mais il n'y a plus accès, donc il est malheureux affreusement. Et à la fin, il part se suicider pendant qu'elle se demande comment vendre cette nouvelle molécule, en ce sens où si vous avez beaucoup de lots de studios célibataires à vendre, vous mettez dans les sachets de cacahuètes un inhibiteur de la vasopressine, tout le monde divorce, vous vendez vos studios, et après, si vous voulez relancer votre fabrique de couffins, vous mettez de la vasopressine dans les cacahuètes pour que tout le monde se remette à faire des enfants. Et on pourrait comme ça réguler la consommation grâce à des tromperies hormonales. Donc, grâce à la science, écrire de la science-fiction est quand même quelque chose de très facile. Donc, je remercie les scientifiques.
Est-ce que tu penses qu'au travers de cette histoire, tout le monde a compris ce que c'était que la vasopressine ? Je pense que oui. Donc, dans un certain sens, tu rends la chose complètement intelligible, non ? Par cet exemple concret qui parle à tout le monde.
Je ne vais pas faire la même avec la physique quantique. Alors moi, j'ai compris que globalement, on avait 3 dimensions plus une, le temps, plus 27 autres dimensions, mais qui sont toutes petites tortillées sur elles-mêmes,
un petit planquées peu moins,
dans les coins. C'est déjà... Et après, finalement, je m'en étais arrêtée à « Nous ne sommes que les projections 3D d'une sphère 2D grande comme l'univers ». Vous m'arrêtez ? Voilà. Il y a une suite.
C'est une bonne question, ça, effectivement. Tu as parlé du boson de Higgs. Donc, quand les physiciens disent récemment que la masse est donnée par le boson de Higgs, quand ils prédisent qu'on doit exister dans un monde qui a au moins 11 dimensions, puis il y a aussi la variante que tu viens d'évoquer avec un peu plus de dimensions, ou quand ils mesurent que l'univers est en expansion accélérée, que donc il va se diluer jusqu'à la fin, est-ce qu'ils rendent notre monde plus intelligible pour nous, enfin pour vous, pour tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire, ils le rendent extrêmement obscur et on se demande qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Estelle, t'as pas encore parlé? Est-ce que tu veux réagir à ça?
À ta question, pas vraiment, parce que c'est un peu compliqué, mais en revanche, j'avais envie de réagir à ce que tu disais sur la bande dessinée et sur la difficulté de faire passer de la physique par la bande dessinée. Je pense que la science-fiction peut faire passer beaucoup de choses. Sans doute pas des choses techniques, dans le sens où ça m'étonnerait qu'on arrive à fabriquer, en lisant de la science-fiction, à devenir un physicien des particules ou un spécialiste de la relativité. En revanche, il y a toujours un aspect technique, mais il y a aussi un aspect conceptuel. Et les concepts, on peut réussir à les faire passer sans cependant faire passer la technique qui est derrière. Et je pense que ça, la SF est un bon moyen de le faire. Je vais juste donner un exemple qui ne sera pas un exemple de bouquin, mais qui sera un exemple d'image. Il y a une superbe exposition de Manchu juste derrière nous. Moi, je joue beaucoup avec un tableau, une image de Manchu où on a une Terre qui est dans un cadre. Donc on est sur la Lune et on voit la Terre qui est complètement encadrée. Et à partir de ça, on peut faire travailler des étudiants et des enfants, parce que je le fais aussi avec des enfants, sur la relativité du mouvement, tout simplement. Parce qu'il y a une chose très compliquée, on parle de relativité générale, mais en fait, la relativité générale, ça modifie profondément l'approche qu'on a de notre position dans le monde, de notre point de vue. Typiquement, si je vous dis que la Terre tourne autour du Soleil, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Par contre, si j'affirme que le Soleil tourne autour de la Terre, là, je suis à peu près sûre qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui vont sauter en l'air, alors que non, on peut le dire. On peut le dire en précisant que, vu de la Terre, le Soleil tourne autour de nous. Et c'est parfaitement légitime de le dire. Et ça peut choquer terriblement, parce qu'on n'en est pas habitué. Mais quand on dit qu'on n'est pas habitué à ça, et qu'évidemment, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, là, on est du 16e siècle, quoi. Donc on a 400 ans de retard et la science-fiction peut permettre d'aider les gens qui la lisent ou qui se prennent une image un peu perturbante dans les yeux à faire ce pas-là. Je vois Gérard Klein juste devant moi. Ça me fait penser au Seigneur de la Guerre, dans Les Seigneurs de la Guerre, où c'est au tout début du roman. Son personnage, son héros arrive sur une planète, il y a des étoiles dans tous les sens, il ne sait pas où il est. Ces étoiles ne sont pas familières, les étoiles ne sont pas du tout les mêmes que sur Terre. Il est rassuré parce que ces étoiles sont là. Mais là, on est ailleurs, on est dans un endroit où on ne voit pas les choses de la même façon. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « le privilège avait cessé ». C'est-à-dire que le point de vue unique qu'on a sur le monde, il a cessé, on est ailleurs. Et c'est pas grand-chose, mais c'est des petites choses comme ça, quand on les reçoit, quand on les lit, quand on les intègre, qui peuvent modifier un certain nombre de concepts qu'on a dans la tête et peut-être faire évoluer les choses aussi. Enfin,
alors je voulais moi aussi rebondir sur ce que Daniel a dit, et à peu près avec le même son de cloche, en ajoutant peut-être deux, trois choses complémentaires. Je crois qu'effectivement la science, au sens, les sciences exactes, c'est pas des formules, ce ne sont pas des formules, ce sont des concepts qui s'accumulent et qui permettent que l'on ait une certaine représentation du monde. Et ce qu'on cherche à faire passer, ou ce que l'humanité cherche à faire en autorisant la science de se faire, enfin, pourquoi est-ce qu'on continue à faire de la science? C'est parce que, tous ensemble, on cherche à mieux comprendre le monde qui nous entoure. D'accord? Donc à la fin, on se retrouve avec une liste de concepts ou avec une espèce de vision. Généralement, quand on a bien compris, on n'a plus besoin des formules. En fait, en science, quand on a besoin des formules, c'est qu'on est dans une phase intermédiaire. Hein. Et quand on se dispute sur les formules ou sur les interprétations de la formule, c'est qu'on n'a pas encore tout compris. Quand on a bien compris, quand on a bien les concepts, alors à ce moment-là, et qu'on le maîtrise, peut-être pour un temps donné, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a des tas de choses qui s'écroulent, hein, la Terre n'est plus plate, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, alors à ce moment-là, il y a une certaine satisfaction, et je partage cette idée qui vient d'être, ces idées qui viennent d'être données, que toutes les interprétations, toutes les formes d'interprétation, l'art, la BD, la littérature, peuvent être des outils pour faire passer les concepts et participent peut-être même à un enrichissement mutuel vers le monde scientifique, hein, quelque chose qui est ténu, hein, une imprégnation qui est imperceptible, mais qui, grosso modo, participe à l'avancée globale, hein, de la compréhension que l'on a du monde qui nous entoure.
Moi, je trouve que la table ronde est très consensuelle, beaucoup trop, c'est pas drôle.
Vas-y.
Alors, je vais, juste pour le plaisir, agresser un petit peu les physiciens des particules. Quand tu nous disais tout à l'heure que le boson de Higgs donne de la masse aux particules, là, pour le coup, je ne crois pas que la physique épaississe le mystère du monde, mais je pense que les physiciens épaississent le mystère du monde. C'est une phrase codée, c'est une phrase qui n'a strictement aucun sens pour quelqu'un qui n'est pas un physicien. Tu nous parles de, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe des modèles très compliqués en théorie quantique des champs, que les physiciens, qui sont merveilleux, qui décrivent des tas de choses qui sont indispensables pour nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la physique des particules, les physiciens n'ont pas été foutus de rendre ça compatible avec les théories de la masse et les théories de la gravité. Donc on n'a pas de bon modèle qui soit capable de rendre compte à la fois de ce qui se passe au niveau des particules élémentaires et des problèmes de gravitation. Et ce que tu nous dis en langage codé, c'est que si tu te places dans ce modèle très particulier de la physique des particules, qui n'a pas été capable de justifier la masse l'existence de la masse des particules, en brisant une symétrie, et là encore, je suis dans le langage codé parce que ce sont des concepts très compliqués qu'on a du mal à dire en mots, en bricolant un peu ce modèle comme on veut et en introduisant un boson de Higgs qui n'existe que si on brise la symétrie, à ce moment-là, on arrive à faire rentrer sous le tapis de la masse dans ce modèle-là. Or, c'est la physique superbe, il y a eu un prix Nobel là-dessus. Enfin, l'idée est géniale et c'est, quand on est capable de l'apprécier, de l'acrobatie intellectuelle, formelle et de la physique de très très haut niveau, c'est superbe. Je pense que pour qui n'est pas un physicien professionnel, c'est au contraire claquer la porte au nez des gens qui essayent de comprendre de quoi il s'agit.
C'est extrêmement obscur. Ce que tu m'inspires, c'est est-ce qu'on peut dire que la physique du 19e siècle éclaircissait, rendait le monde plus intelligible dans la mesure où elle parlait essentiellement de phénomènes qu'on observe à notre échelle à nous, la gravité, l'électricité, on l'a inventé, c'est pas tout à fait à notre échelle à nous, mais on s'est très vite habitué. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture à partir du début du XXe siècle avec essentiellement la mécanique quantique et la relativité restreinte qui parle de choses contre-intuitives et qu'on ne voit pas au jour le jour? On ne voit pas le monde quantique, jamais, on ne le voit pas, seuls les physiciens le voient dans une certaine mesure. On ne voit pas les effets de relativité restreinte, le temps passe de la même façon pour tout le monde, alors que non, on sait grâce à la relativité restreinte que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture au début du XXe siècle où la physique est devenue naturellement inintelligible dans la mesure où elle s'est intéressée, parce que le reste était fait, à des échelles qui ne sont plus les échelles humaines?
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une rupture, mais pour moi, la rupture est esthétique et non pas conceptuelle. Du point de vue des concepts, quel que soit le concept qu'on considère, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, on ne l'a pas compris. Donc tous les concepts qu'on n'a pas compris sont compliqués. Quand Maxwell introduit la théorie de l'électromagnétisme, la notion de champ, quelque chose qui rend les gens fous, c'est affreusement compliqué. Alors, maintenant, c'est quelque chose qu'on enseigne au lycée, donc la plupart des gens ont une idée à peu près claire, ou au moins une vague intuition de ce qu'est un champ. Pour un honnête homme, là je suis plus au 19e, mais un homme cultivé de la fin du 19e siècle, quand il voit apparaître ces nouveaux concepts, je suis persuadé qu'il est aussi ahuri que l'homme du début du 20e siècle devant la théorie quantique des champs. Une différence en revanche, c'est que les physiciens du 19e siècle étaient, j'aime pas beaucoup le mot dans d'autres contextes, mais étaient des savants. Étaient des gens qui savaient énormément de choses et qui ne savaient pas seulement de la physique, qui avaient tous été formés au latin, au grec et ainsi de suite, qui avaient une culture infinie et qui se donnaient beaucoup de mal pour ne pas créer d'ambiguïté. Si on regarde les mots qui décrivent la physique du 19e siècle, pas forcément l'électromagnétisme, parce qu'il y a pas, enfin, je ne vois pas sur l'instant de beaucoup de néologismes associés à ça, peut-être le champ, mais si on prend les mots de la thermodynamique, par exemple, les mots d'énergie, d'entropie, sont des néologismes, et ce sont des néologismes parfaitement formés du point de vue de l'helléniste. Donc ce sont des gens très cultivés qui se sont donné beaucoup de mal à réfléchir sur comment créer les mots qu'il faut pour décrire des concepts nouveaux. Et ces mots étaient suffisamment bien forgés pour qu'on les emploie encore aujourd'hui. Et tout le monde parle d'énergie, tout le monde a à peu près compris ce qu'était l'énergie aujourd'hui. C'était des néologismes, donc il n'y avait aucune ambiguïté possible avec des mots existants. Et donc il y avait un véritable travail de la part des scientifiques du plus haut niveau de la fin du 19e siècle pour transmettre, non pas directement au grand public leurs idées, mais s'inscrire dans une chaîne de transmission, le chercheur ou le professeur d'université forgeant les termes pour que le professeur agrégé puisse comprendre de quoi il s'agissait, le professeur agrégé formant les instituteurs formant les enfants des écoles, et en prenant le temps qu'il fallait, on pouvait espérer que tout le monde accède à un minimum de compréhension, sinon de tout, du moins de tous les concepts importants. Je parlais tout à l'heure de Bohr qui ne voulait surtout pas parler de mécanique quantique avec des béotiens. Là, on a une démarche qui est entièrement différente. On n'est pas simplement dans le fait de ne pas trouver le bon mot, on est dans le refus du langage naturel pour communiquer quoi que ce soit sur la physique quantique. Et il me semble que les physiciens actuels, je vais essayer de pas être trop bavard, mais que les physiciens actuels ont tendance au contraire à faire rigoureusement l'inverse de ce que faisaient les physiciens du 19e, à récupérer des mots à la mode, qui parle au grand public et à leur donner un sens différent. Et ça, c'est de l'illusionnisme, ça donne l'impression aux gens de comprendre de quoi on parle. Alors, je pense à des mots comme téléportation, par exemple. La téléportation est quelque chose que tous les amateurs de science-fiction connaissent bien. Les spécialistes de cryptographie quantique se sont aperçus que, ma foi, ça permettait d'avoir des tas de contrats, de prétendre faire de la téléportation quantique. Donc il y a une discipline nouvelle, et là encore, c'est de la très jolie physique, je suis en train de débiner les collègues, il y a des choses merveilleuses qui se font, qu'on appelle de la téléportation quantique, mais qui n'ont strictement rien à voir avec ce que les amateurs de science-fiction peuvent mettre sous ce terme-là. Et on pourrait trouver 15 exemples à la douzaine. Les physiciens d'aujourd'hui, non seulement ne se donnent pas de mal pour avoir un discours intelligible par le grand public, mais ont tendance à faire un nuage de fumée avec l'appropriation d'un vocabulaire qui semble courant et qui en fait ne l'est pas.
D'accord, donc ta réponse à la question, c'est les physiciens obscurcissent l'univers. Alors est-ce qu'on peut trouver quelqu'un...
C'est de la provocation, oui.
Oui. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ici qui serait capable d'éclaircir un peu l'univers? Je ne sais pas, peut-être soit l'épistémologue, soit la romancière, soit l'auteur de BD. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer d'éclaircir l'univers pour nous?
Non, moi je voudrais poser une question, parce que justement, depuis le rap de Large Hadron Collider, j'ai trouvé qu'il y avait justement un véritable effort de vulgarisation. J'ai l'impression d'avoir à peu près compris que quand il y a une force, il faut bien un vecteur et qu'on a réussi à choper le boson de Higgs et qu'on est content. Un champ scalaire, j'avais l'impression de savoir ce que c'est, et tous les soirs, j'oblige mes deux fils à me réciter la liste des fermions. Et là, en fait, là, c'est de la poudre aux yeux et on m'a raconté on m'a joué du pipeau au prix de la symphonie en quatre mouvements, quoi. Je suis déçue.
Oui et non. Je crois que j'aime la physique. Je suis persuadé que la physique est quelque chose de très joli et que quelqu'un de vraiment intelligent et qui cherche vraiment à comprendre de quoi il s'agit, s'il essaye vraiment, arrivera toujours, pas forcément à devenir un technicien, à maîtriser les choses, mais à deviner, pas forcément tout, mais des tas de choses très jolies. Et je suis persuadé que ce que tu as vu est pertinent. Pour autant, c'est pas, ça ne fait pas de toi une spécialiste de physique quantique.
Thierry ?
Oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que la rupture... Enfin, c'est évident, peut-être, mais... on ne peut pas comparer la situation actuelle, évidemment, avec la physique du 19e, tout simplement parce qu'entre les deux, on a abandonné le réductionnisme. C'est-à-dire que nos ancêtres du 19e, ils pensaient qu'on réussirait à expliquer toute la matière à partir des atomes. Et puis, il y a eu la révolution quantique qui, à mon avis, est le signal qu'il y a quelque chose qui, de nouveau qui arrive, quoi. Enfin, des nouveaux concepts qu'il faut maîtriser, etc. Donc, on ne peut pas comparer directement. C'est, à mon avis, les deux sciences continuent à exister. Et on ne peut pas en vouloir à nos amis physiciens des particules. Moi, je serais plutôt astrophysicien des particules que physicien des astroparticules. Donc, je change de casquette de temps en temps. Mais je veux dire, ils sont aussi malheureux que nous tous ici de ne pas tout comprendre, quoi. Enfin, je veux dire,
sans doute plus malheureux.
Par contre, là où on voit que on atteint l'objectif de la science, c'est que le modèle standard de la physique des particules est un sous-ensemble extrêmement cohérent pour lequel il manquait une particule mythique, qui est le boson de Higgs, et qu'on a fini par trouver. Donc ça, c'est une satisfaction extraordinaire. Donc on a la physique du... Je résume, enfin, pour pas faire un cours de physique pendant 3 heures, mais on a la physique du 19e qui est là et qui continue à fonctionner. On a des tas d'autres choses. Et puis on a la physique du boson de Higgs qui est dans son coin. Et puis on espère un jour que tout ça, ça va se recoller avec ce qu'il y a dans la physique du 19e, qui est par exemple la gravitation. Mais il faut être un peu patient. Donc on est en permanence dans la construction de cette vision du monde, et il y a des trous dans la raquette en permanence.
Estelle, tu voulais...
Oui, moi je voulais revenir sur les mots, parce que enseigner les sciences, c'est travailler beaucoup avec le langage, surtout quand on travaille, moi je travaille avec des enseignants du primaire, donc la moindre équation, c'est la panique à bord. Donc on travaille vraiment avec le langage. Et je pense qu'il y a effectivement une vraie difficulté. Elle a été repérée il y a longtemps, hein, Bachelard parlait d'obstacles épistémologiques. Et parmi les obstacles qu'il repérait, c'était des mots qui, parce qu'ils existaient et parce qu'ils parlaient aux gens, évitaient d'aller plus loin, évitaient de penser plus loin, et finalement avaient un côté un peu magique. Et lui, il utilise le mot éponge, qui à l'époque était utilisé pour à peu près tout et n'importe quoi. Et on retrouve, c'est chez en tout cas mes enseignants, les enseignants avec qui je travaille, le même type d'effet. Par exemple, quand vous voulez déboucher vos toilettes et puis que vous utilisez, le mot m'échappe, une ventouse, et ben voilà, comment ça marche une ventouse ? Ben, c'est l'effet ventouse. Et l'effet ventouse suffit comme explication en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, à peu près tout ce qui est d'un point de vue phénomène assez proche de ce qui se passe avec une ventouse, bah, c'est l'effet ventouse. Et du coup, derrière le mot ventouse se cachent des phénomènes extrêmement complexes qui ne leur sont plus accessibles parce que finalement le mot en lui-même suffit pour expliquer le monde. Et donc je voulais revenir sur le mot téléportation, ce genre de. Enfin, je pense vraiment qu'il y a. Il y a quelque chose qui se joue là qui n'est pas simple. C'est-à-dire que communiquer en science, faire passer des nouveaux concepts, ça passe aussi par des mots. Et quand un mot est trop proche d'un autre et que deux conceptions se percutent, je dirais, on ne sait plus ce que comprend l'autre et du coup, on a des problèmes de communication. Et moi, je passe mon temps en permanence avec les enseignants à revenir sur les mots et leur dire, mais attendez, d'accord, l'effet ventouse, expliquez-moi d'un peu plus près ce que vous voulez dire par là. C'est l'effet ventouse. Oui, mais encore. Et il faut trouver des contre-exemples, des choses qui les perturbent finalement pour dépasser ce fameux effet ventouse ou cette éponge. Enfin, voilà, c'était pour revenir sur le sens des mots et le fait que l'air de rien, c'est quelque chose d'important. Moi, il y a une pub qui m'avait fait sauter en l'air il y a quelques années. C'était une pub du Prince Lu. Où le chevalier gagnait contre un dragon et le titre c'était l'énergie est une force.
Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ou... Oui, ouais, vas-y.
Non, je ne vais pas pouvoir réagir à ça parce que c'est très très bien conclu. Mais je pense à une piste pour le thème du débat, c'est la physique et aussi la compréhension. Hein. Donc pour moi, ça pourrait se décrire comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire rentrer les constructions effrayantes de complexité de la physique, des physiciens, dans ce petit objet qu'est notre intuition, notre compréhension. Donc ça demanderait à parler des limites. Je disais tout à l'heure qu'à mon avis, il y a peu de chances de réussir à rendre intuitif les constructions théoriques de diverses sciences, pas la physique, mais la physique en particulier. Et j'ai pensé à un exemple classique que tout le monde connaît, qui illustre bien pour moi les limitations de du fonctionnement de notre compréhension. Vous dessinez deux carrés et vous connectez les coins des carrés par quatre traits, hein, et vous obtenez une figure que, si vous l'animez, c'est-à-dire vous faites en sorte qu'il y a un carré qui devient plus petit, l'autre qui devient plus grand, celui qui est plus petit passe à l'intérieur du grand carré, puis ensuite il sort, et puis il devient lui plus grand, et l'autre devient plus petit, etc. Si vous gérez bien l'animation, vous allez voir un cube. Instantanément, vous n'allez pas réfléchir. Hein. Notre intuition... Notre esprit, notre cerveau est câblé pour pouvoir faire rentrer cet exemple simple dans notre compréhension. Par contre, si vous prenez un cube et puis un autre cube, vous avez sûrement vu ce genre d'économiseur d'écran, deux cubes, et vous connectez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets de l'un aux 8 sommets de l'autre par des lignes, et puis vous faites la même animation. Il y a des programmeurs qui ont fait ça, qui ont programmé par analogie avec le cube constitué de deux carrés connectés. Et vous regardez, vous voyez un cube qui rapetisse, qui va à l'intérieur du grand cube, puis ensuite qui sort du grand cube, puis qui devient grand lui, et puis l'autre cube redevient petit, puis, etc. Et vous ne voyez jamais le cube à quatre dimensions que c'est censé représenter. Aucune chance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des études, 15 ans d'études, travailler sur les mots ou quoi que ce soit, vous n'y arriverez jamais. J'ai l'impression qu'il y a ça pourrait être une question pour les physiciens, c'est vous travaillez sur des modèles formalisés, même si vous disiez tout à l'heure que les formalismes ne sont pas l'essentiel, hein, c'est les concepts, mais in fine ce que vous décrivez, ça utilise des variables mathématiques, de la logique, hein, des prédicats, je sais pas, enfin, des machins de ce genre, des nombres. Difficile de se passer de ça. Hein. Il y a la théorie de la relativité, c'est des équations. Je ne sais pas si on peut être fidèle à ce que Einstein nous proposait si on bypasse les équations de la relativité générale. Et ça, à mon avis, c'est définitivement inaccessible à notre compréhension. En tout cas, à la compréhension de tout un chacun, de la mienne déjà. C'est pour ça que je me disais peut-être que on est peut-être comment dire, condamné à en occuper des bouts, chacun selon ses talents, et espérer que le tout forme une compréhension, mais qui nous échappe à nous en tant qu'individus.
Tu veux répondre assez brièvement, parce que je voudrais donner la chance au public de nous poser quelques questions.
Je vais essayer d'être bref, mais déjà par principe, quand tu nous dis que quelque chose est définitivement inaccessible, je m'inscris en faux. C'est peut-être un article de foi, mais non. Mais je crois qu'il y a deux choses très différentes dans ce que tu nous écris. Il y a d'une part, effectivement, des choses qui relèvent de la perception humaine, et pour le coup, je ne suis pas spécialiste de sciences cognitives ou de biologie, mais effectivement, l'œil humain, le cerveau humain est câblé de telle sorte qu'il y a des choses qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas. Et je suis tout prêt à croire, effectivement, qu'il y a des gens qui ont du mal à voir en trois dimensions, mais la plupart des gens sont capables de voir en trois dimensions. Il y a un petit nombre de gens qui semblent capables d'imaginer les choses à quatre dimensions, mais c'est très minoritaire. Et au-delà, personne n'y voit rien. Et ça, c'est le cerveau humain. Quand tu parles des difficultés liées au formalisme, les difficultés ne sont pas liées au cerveau humain, elles sont liées au formalisme lui-même. Et ce que tu dis, c'est qu'on emploie des outils qui sont mal adaptés. Alors on fait ce qu'on peut. On a des concepts qui sont relativement nouveaux. On est déjà très très content d'avoir réussi à développer des outils formels qui permettent de décrire typiquement le monde quantique. Ce sont de mauvais outils. C'est ce qu'on a pu faire de mieux jusqu'à présent. Ça ne fait qu'un petit siècle qu'on travaille dessus. Et c'est horriblement compliqué et on n'a pas réussi à faire mieux. Je ne doute pas que dans quelques décennies, dans quelques siècles, on aura des outils suffisamment raffinés pour que beaucoup plus de gens soient capables de faire ça. Et pour reprendre un exemple, pour le coup, suffisamment ancien, enfin, qui a quelques siècles, les problèmes de mécanique avant Newton se traitent avec de la géométrie. Et bon, tout le monde a fait un minimum de géométrie. C'est pas des outils affreusement compliqués, mais il faut être vraiment pointu et vraiment fort en maths pour arriver à faire des démonstrations un peu compliquées de façon entièrement géométrique. Et dès qu'on a une demi-douzaine d'objets qui se battent en duel et qui se déplacent les uns par rapport aux autres, les problèmes de géométrie deviennent très rapidement infaisables. Newton a résolu ce genre de choses en introduisant un nouveau formalisme. Le formalisme des équations différentielles qui est très bien adapté à la description des problèmes de mécanique. Et maintenant, je ne dirais pas n'importe quel gamin de 5 ans, mais n'importe quel étudiant en sciences avec un bac scientifique maîtrise à peu près devrait maîtriser à peu près ce genre de formalisme. C'est un outil qui commence à être bien au point. Et je ne désespère pas du tout que dans un futur moyen, le travail des mathématiciens nous permette nous fournissent les outils conceptuels et formels qui nous permettront d'écrire les choses plus simplement.
Thierry, quelque chose t'a fait bondir, je crois.
Oui, non, ça ne me fait pas bondir, mais effectivement, il ne faut pas confondre l'outil et l'objectif. Hein, c'est-à-dire que l'outil est quelque chose dont on souhaiterait se débarrasser. Et si on a des outils compliqués, c'est parce que la nature nous emmène dans la complexité. Mais l'outil est nécessaire pour deux choses. D'abord, la prédiction ou la réfutation des théories. C'est-à-dire que parce qu'on a un outil, on va savoir que ce qu'on a conceptualisé est juste ou pas. D'accord ? En faisant des équations mathématiques qui ne se trompent jamais, on va savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. On va faire une prédiction. Elle sera fausse ou elle sera vraie. Et l'autre chose, c'est que cet outil mathématique rébarbatif, c'est quand même celui qui va te permettre de dire « Mais non, tu n'es pas en train de voir un cube, tu es en train de voir deux carrés qui sont reliés entre eux. » Donc en fait, l'intuition, quelqu'un parlait d'intuition tout à l'heure, et n'a jamais été un très bon ami du physicien. Et ce qui sauve le physicien de sa mauvaise intuition, c'est l'outil mathématique. Et ce qui permet ensuite de passer de l'intuition au concept, c'est encore l'outil mathématique.
Ça, c'est vrai, mais justement, la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'on puisse faire rentrer cet outil mathématique un jour dans le faible espace que j'appelle notre compréhension ?
Il n'y a pas besoin. Ça fait pas partie de la. Enfin, ça fait pas. Y a les mathématiques en soi engendrent de l'intelligence et de la compréhension, mais dans le cas qui nous intéresse là, on n'en a pas besoin, à mon avis.
Alors oui, je voulais quand même dire qu'il y a peut-être une raison pour laquelle il est très difficile de faire parvenir à l'intuition collective des faits physiques nouveaux. C'est peut-être aussi parce que depuis la relativité restreinte et générale, on est rentré justement dans la physique non intuitive. On a été dans tout ce qui était newtonien, donc observable, logique. Vous lâchez ça, ça tombe. Et puis tout d'un coup, pouf, on est passé dans le non intuitif. Donc c'est à s'arracher les cheveux. Mais c'est normal et c'est ça qui est beau. Par exemple, si un jour vous tombez vers un trou noir tout en envoyant des selfies à votre mère qui est restée sur la Terre, au moment où vos selfies vont arriver de plus en plus lentement, et au moment où vous passez l'horizon du trou noir, vos selfies vont quasi s'immobiliser, et vous serez depuis longtemps réduit à l'état de spaghetti au fond du trou noir, que vos selfies continueront à arriver pour l'éternité. C'est quand même beau et assez inquiétant. Et si vous voulez quand même essayer d'y comprendre quelque chose, alors là je vous recommande les ouvrages de vulgarisation de Roland Lehoucq, qui est le grand mamamouchi d'ailleurs de ces utopiales, et, ou alors la revue Bifrost, dans laquelle cette vulgarisation paraît très régulièrement, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu vous raconter ces histoires de selfies, de nouilles. Je ne sais pas si ça est clair, mais ça permet de visualiser la difficulté du non-intuitif.
Bon, c'est une très bonne, c'est pas une conclusion, mais c'est un très bon pont vers le public. Alors, je voudrais savoir s'il y a des questions au public, mais avant, je voudrais vérifier quelque chose. Parce que je pense qu'on n'a pas vraiment répondu à la question ici. J'aimerais savoir si vous, public, vous pensez que la physique rend l'univers plus intelligible ou plus mystérieux. Et c'est aussi pour tester votre capacité à lever votre main. C'est une expérience physique, hein. Je suis physicien, donc j'ai fait des expériences. Donc on va commencer par intelligible. Qui ici pense que la physique rend l'univers plus intelligible ? Merci les gars. Qui pense le contraire, que ça la rend plus obscure ? Vous êtes nombreux mais minoritaires. Ok. Ok. Donc. Plus intéressant, le mot de Gérard. Donc il y a une question, je crois, ici, pour démarrer. Ou là, oui, va là, puisque tu es plus près.
Bonsoir. Depuis le début de cette table ronde, finalement, on parle de la compréhension du monde, mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut. On a une compréhension de ce monde. Et cette compréhension n'était pas différente pour un physicien des particules, un biologiste, et pour quelqu'un qui a une connaissance plus standard, on va dire, avec enfin, le commun des mortels, finalement. Merci.
qui veut réagir?
Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris la question, mais je crois quand même qu'il y a des points communs. Évidemment, le degré d'approfondissement ne sera pas le même. On aime bien depuis Thomas Kuhn, qui est un philosophe du XXe siècle, parler de la notion de paradigme. Savoir que la connaissance humaine, les représentations humaines du monde ne naissent pas de rien. On se forge une représentation du monde, et ce, quel que soit son propre niveau, qu'on soit un chercheur de pointe ou qu'on soit un non-spécialiste, on est baigné dans un bain culturel permanent qui reflète très largement les idées dominantes à un moment donné sur les différents problèmes de physique, sur les différents problèmes de biologie. Et c'est ça qu'on appelle un paradigme. Le paradigme, c'est l'ensemble des concepts, l'ensemble des outils formels, l'ensemble des résultats qu'on peut avoir sur un sujet donné. Donc on va maîtriser plus ou moins ce paradigme, on va aller plus ou moins en profondeur dans ce paradigme, mais tout le monde va naviguer dans le même paradigme. Ce qui se passe de temps en temps, c'est que les paradigmes échouent. Donc il y a un certain nombre de questions qui résistent, qu'on n'arrive pas à traiter dans le cadre d'un paradigme donné. Et à partir de ce moment-là, il y a un esprit génial, de temps en temps il y en a un Galilée, un Einstein, un Newton, qui va avoir l'intuition d'une façon de traiter les choses complètement différemment, sortir du paradigme pour en créer un autre. Ça c'est ce que Kuhn appelle une révolution scientifique. Et à partir de là, le reste de la, si s'avère que la nouvelle façon de penser est plus fructueuse et résout effectivement les paradoxes qu'on n'arrivait pas à résoudre dans l'ancien système, progressivement, les gens, à commencer par les collègues immédiats qui travaillent sur le même sujet, puis l'ensemble de la communauté scientifique, et puis à terme l'ensemble du grand public, va basculer dans un nouveau paradigme. Donc on a un changement de paradigme par siècle ou tous les deux siècles, mais à un moment donné, en dehors de ces quelques périodes de révolution scientifique, oui, je crois qu'effectivement tout le monde navigue dans le même paradigme et est capable de communiquer, on est capable de communiquer les uns avec les autres, plus ou moins en profondeur en fonction du temps qu'on a consacré à étudier les choses, mais on est tous dans le même bain culturel et on parle tous de la même chose. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Catherine, tu voulais prendre une autre question?
Okay, merci. Moi, j'ai une information et une question. L'information, c'est qu'il existe une excellente bande dessinée de vulgarisation scientifique. Ce sont les aventures d'Anselme Turlu de Jean-Pierre Petit. Voilà. Je voulais préciser ça. Et la question, c'est... Je profite que j'ai une brochette de physiciens là sous la main. Une question que je me pose depuis l'affaire des neutrinos supraluminiques, avec tout plein de guillemets. C'est, quand j'étais petit, les neutrinos n'avaient pas de masse et ils voyageaient à la vitesse de la lumière. Okay. Maintenant, on sait qu'ils ont une masse, même si on ne la connaît pas précisément. Donc ma question, c'est, quelle est leur vitesse? Pour éclaircir mon univers.
Voilà. Thierry, je crois que c'est pour toi, ça.
Oui, j'ai été harcelé au lendemain de la découverte de la supraluminie. Ça se calcule avec une équation de relativité assez simple. Donc ça dépend de leur énergie, mais effectivement, leur vitesse n'atteint pas la vitesse de la lumière.
Je vais te donner une réponse
d'optique. Il n'y a pas de réponse toute faite. Elle dépend de l'énergie qu'on a bien voulu donner aux neutrinos.
Bon, mais il y a plusieurs réponses possibles de physiciens. Ça, c'était la réponse du physicien des
rapide,
particules.
Rapide, parce qu'on a d'autres.
La réponse de l'opticien. J'ai longtemps joué avec des solitons qui allaient à une vitesse qui était à peu près le double de la vitesse de la lumière. La définition même de la vitesse de la lumière, là encore, la vitesse de la lumière fait partie de ces expressions un peu compliquées. On sait depuis Léon Brillouin et Arnold Sommerfeld au début du XXe siècle qu'il n'y a pas une vitesse de la lumière, il y a une demi-douzaine de vitesses de la lumière. Il y a la vitesse de transport de l'énergie, la vitesse de transformation de transport d'information. Vous avez sans doute entendu parler de vitesse de groupe, de vitesse de phase. Et la limite à la limite Einsteinienne habituelle, ne porte que sur le transport d'informations et sur le transport de l'énergie. Quand on considère des choses simples, comme le font les gens de physique des particules, on prend une particule, là on n'a pas de problème, toutes les définitions de ces vitesses sont confondues, et on est tranquille, on n'ira jamais plus vite que la vitesse de la lumière. Dès qu'on considère des choses un peu compliquées, et ce qui s'est passé au CERN, c'est que ce qu'ils regardaient, ce n'était pas la particule, mais la particule modulée par tous les détecteurs qui n'étaient pas exactement adaptés à ce qu'il fallait, avec des tas d'effets d'appareils dans tous les sens. Les définitions de la vitesse qu'il manipulait dans les faits étaient beaucoup plus compliquées que celles-là. Et quand on n'emploie pas les bons mots, on arrive très vite à dire un peu n'importe quoi.
pour vous rassurer, les neutrinos ne vont pas plus vite que la vitesse de lumière. C'était plutôt un bug que quoi que ce soit de plus subtil. Gérard. Bon, après Gérard.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question. Vous aviez dit qu'au début du XXe siècle, c'est là où la physique est devenue totalement contre-intuitive. Mais avant le XXe siècle, quand on a su que la Terre était ronde, c'était pas non plus très intuitif.
Maintenant, c'est évident. Oui. Et là, je crois que là, c'est une excellente réflexion. Et là, je crois qu'on rejoint la notion de paradigme dont parlait Eric. Il y a effectivement, en gros, tous les siècles, il y a un moment où vous êtes au centre de l'univers et tout d'un coup, vous vous retrouvez sur une petite planète qui tourne autour d'un petit soleil dans la banlieue d'une galaxie parmi d'autres. C'est une grande claque dans la figure. Et il y a une rupture. Changement de paradigme aussi brutal s'appelle une rupture épistémologique. Donc celui qui en parle très bien, c'est Gaston Bachelard, vu que c'est lui qui a inventé l'épistémologie et pour lequel on a créé la première chaire d'épistémologie. Il en parle très bien et c'est extrêmement intéressant. Et il faut savoir que, par exemple, au Moyen-Âge, on interviewait des gens en leur disant « Avez-vous vraiment vu Madame Michu passer sur un balai volant avec des boucs ?» Et les gens les avaient vus. On a un nombre considérable de témoignages. Et maintenant, si vous posez la question, très, très, très peu de personnes voient passer tous les soirs Madame Michu nue sur son balai. Parce qu'il y a eu une évolution de la psyché collective. Et à chaque fois, bien sûr, il y a des gens qui se raccrochent quand vous croyez descendre de Dieu et puis qu'on dit « Ah ben non, finalement, c'est du singe ». Les créationnistes, c'est des gens qui essayent désespérément de continuer à vivre dans un ancien paradigme. Et je crois que c'est la grand-mère d'un célèbre zoologue qui avait dit à son petit-fils « Toi, tu descends peut-être du singe, mais moi, jamais ».
Pour une autre question.
Merci beaucoup. Je voudrais faire deux ou trois petites remarques, si je ne perds pas mon fil en route, mon âge, c'est inexcusable. Et ensuite poser une question forte aux scientifiques, une question qui viendra de la science-fiction, même si les auteurs de science-fiction ne s'en rendent pas nécessairement compte. Parmi les quelques petites remarques, il y a d'abord l'idée que le réductionnisme était si présent que ça chez les scientifiques du XIXe siècle. Il l'était chez quelques mauvais philosophes, mais il était très peu présent chez les scientifiques du XIXe siècle quand on les lit. Quand à la fin du siècle, certes, on lit par exemple les essais d'Henri Poincaré, que je relis là où je peux les suivre avec plaisir, on voit bien que Poincaré n'était pas du tout, mais alors là, vraiment pas du tout, un réductionniste. Ensuite, une remarque concernant la perception dite intuitive du cube. Moi, je veux bien, mais j'aimerais être tout à fait certain qu'un habitant des grottes dans la préhistoire, ou même un grec relativement cultivé, mais pas forcément un géomètre, se représentait correctement un cube. Pourquoi est-ce que je soulève la question sous cette forme? C'est parce que j'ai eu plusieurs fois expliqué précisément ce que c'était qu'un hypercube, et pour une raison très précise, c'était à propos de tableaux de Salvador Dali, qui a beaucoup joué avec cette idée, avec cette notion d'hypercube. Je ne suis pas absolument sûr que les gens, contrairement à moi, à qui je l'ai expliqué, voyaient les hypercubes, mais il y a une chose dont je suis tout à fait certain, c'est qu'ils ont très bien compris le concept, pour revenir à cette idée, et que ce concept n'est pas si compliqué que ça. Alors, une autre remarque, un peu du même genre, enfin non, assez différente. Dans les années 1950, C.P. Snow, dans un livre que vous connaissez peut-être, La double culture, évoque la question de qu'est-ce que c'est que la culture. Et dans le milieu qu'il fréquente, qui est le milieu de la haute bourgeoisie et de la haute administration et politique britannique, si on ne connaît pas un peu Shakespeare, si on n'a pas entendu parler de Shakespeare, on est complètement inculte. Mais si on ne connaît pas le second principe de la thermodynamique, un principe qui est né, comme vous savez, au XIXe siècle et qui aujourd'hui encore, pour de très hauts fonctionnaires ou des hommes politiques qu'il m'est arrivé de croiser, ne va pas sembler du tout évident. Donc il faut un certain temps pour que des concepts, en tout cas dont superficiellement apparaissent simples, pénètrent. Il y a encore du travail, Estelle, à faire. La question que je voulais poser, elle concerne quelque chose dont les écrivains de science-fiction se servent énormément et dont je ne suis pas toujours sûr qu'ils mesurent tous la portée, l'importance, c'est le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Je ne vous demande pas du tout d'en donner une définition, mais les sciences issues, en gros, du XVIe siècle, en particulier les sciences du XIXe et du XXe siècle, la relativité restreinte comme généralisée, la physique quantique dans l'équation de Schrödinger, par exemple, ce que vous voudrez, a totalement spatialisé le temps. Elle l'a aplati. En quelque sorte, il n'a plus d'existence. Est-ce que le problème qui se pose aux physiciens aujourd'hui n'est pas d'opérer une renaissance du temps ? Alors je dois dire que je m'abrite humblement derrière l'autorité de Les Molin, qui est un physicien, je pense, assez réputé, et qui vient justement de publier un livre que je suis en train de lire, qui s'appelle « La renaissance du temps ». Et la problématique qu'il soulève est extrêmement intéressante. Donc, lisez de la science-fiction pour y redécouvrir le temps, le voyage et peut-être sa réalité fondamentale et non pas seulement émergente.
Je vais donner une première réponse. Le temps, c'est le truc qui fait qu'en principe, on n'a pas le temps de donner la réponse à la question puisque la table ronde est terminée. Mais si quelqu'un veut esquisser une réponse très brève, on va partir et réfléchir à cette question de temps. Donc, merci à tous les intervenants.